Une grande consultation publique sur l'eau à l'échelle du bassin Loire-Bretagne est lancée. Donnez votre avis en tant que citoyen jusqu'au 18 juin. Pour contribuer à une vision d'avenir pour l'eau, l'association SOS Loire Vivante ERN France vous informe.
Pour la reconquête de la qualité de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne, l'implication de chacun est importante. Et pour y arriver tous ensemble et pour que chaque acteur de l'eau agisse au mieux, de nouvelles interactions se sont mises en place progressivement. On parle de gouvernance. Madame Opériol, vous êtes directrice de l'information de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne gouvernance de l'eau ?
Une bonne gouvernance de l'eau, c'est la méthode qui va nous permettre d'associer l'ensemble des acteurs pour une prise de décision concertée, juste et qui permette ensuite de mettre les décisions en œuvre. Prendre des décisions pas concertées en amont, c'est facteur d'échec. Et dans le domaine de l'eau, on sait qu'on a besoin d'emmener l'adhésion du maximum de nos interlocuteurs. Donc l'enjeu de la gouvernance, c'est vraiment de les associer au bon moment, en amont des décisions, pour ensuite avoir des décisions efficaces.
D'accord, alors c'est un concept qu'on comprend tout à fait, qui paraît assez simple, mais finalement la mise en œuvre de la gouvernance de l'eau, elle est assez délicate sur le terrain.
Alors, elle est délicate sur le terrain parce que nous sommes tous autour de la même ressource en eau et que nous voulons en faire des choses différentes. C'est-à-dire que ce qui est délicat et ce qui, du coup, renforce l'exigence d'une bonne gouvernance, c'est que nous avons tous des intérêts particuliers, parfois divergents, parfois même contradictoires, vis-à-vis de la ressource en eau et vis-à-vis des milieux aquatiques.
Vous avez un exemple en particulier ?
Quand on est par exemple dans une région, on va prendre la région centre où il y a une grande réserve d'eau sous terre qui est la réserve de la nappe de Beauce, on a pu se trouver lors d'épisodes particulièrement secs prolongés avec un réel conflit d'usage entre ceux qui ont besoin d'eau pour irriguer et les collectivités qui ont besoin d'eau pour approvisionner les habitants en eau potable. Et n'oublions pas, avec le milieu naturel, puisqu'on a un certain nombre de cours d'eau qui, dans ce secteur de la région centre, peuvent être à sec l'été lorsque la nappe descend à des niveaux très bas.
Madame Opériol, nous allons dresser un bref aperçu des instances de l'eau pour voir qui fait quoi. Au niveau de l'État, quels sont les agents qui agissent pour l'eau ?
Vous avez d'abord une direction de l'eau et de la biodiversité, j'insiste, au sein du ministère de l'écologie et du développement durable. Cette direction coordonne l'ensemble de la politique de l'eau et coordonne l'action des différents établissements publics qui interviennent sur le sujet. Dans les établissements publics de l'État, vous allez trouver les agences de l'eau, vous allez trouver aussi l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par exemple. Si on reste au niveau de l'État, les services ensuite interviennent au niveau des régions, avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL. Et puis les agents de l'État, vous les retrouvez également au niveau départemental, donc dans les directions départementales des territoires, où vous trouvez les agents en charge de l'application de la réglementation sur l'eau. Dans les politiques de l'eau, il faut imaginer, à peu près comme dans toute politique publique, on a tout ce qui est de l'ordre de l'impulsion et de la définition des politiques. On a tout ce qui est de l'ordre de la mise en œuvre du réglementaire, donc le régalien, qui est du niveau de l'État. Et puis, dans ce domaine qu'est l'eau, on a en plus un outil financier qui est l'agence de l'eau.
Les agences de l'eau, en fait, sont des établissements publics qui sont un peu le bras financier de la politique de l'eau.
C'est tout à fait ça. Donc, les agences de l'eau, une gestion de l'eau, bien des principes, qui est de gérer l'eau à l'échelle d'un bassin hydrographique.
C'est-à-dire toutes les eaux qui finissent dans la Loire, au final, sur le bassin.
Voilà,
de la Loire.
C'est ça. Alors, dans la Loire, donc ça veut dire tous les bassins versants de la Loire et de ses affluents. Mais aussi, pour ce qui nous concerne, c'est le bassin Loire-Bretagne. Donc, c'est aussi l'ensemble des bassins, des cours d'eau bretons. Puis, on va raccrocher aussi les petits côtiers vendéens. Donc, un bassin hydrographique, sur ce bassin hydrographique, un établissement public de l'État, donc l'Agence de l'eau, et à cet établissement public est dévolue une double mission, c'est de mettre en place des redevances sur les usages de l'eau, donc des redevances sur les pollutions, sur les prélèvements d'eau, de percevoir ces redevances et avec le produit de ces redevances, de faciliter, en les subventionnant, des actions qui vont concourir à préserver la qualité de l'eau, préserver les milieux aquatiques, préserver aussi les ressources d'un point de vue quantitatif. L'approvisionnement en eau potable des habitants et le traitement des eaux usées des habitants, c'est une compétence des communes. Donc le premier interlocuteur là, du citoyen, ça va être le maire. Alors le maire lui-même ou le syndicat auquel il a délégué, auquel il a adhéré et délégué, ou l'intercommunalité ou l'agglomération.
Oui, voilà, ça peut être la communauté de communes ou la communauté d'agglo.
Tout à fait. Mais en tout cas, c'est bien à la structure de base, donc la commune. Ne jamais oublier ce premier niveau des instances de l'eau. L'eau, elle se gère aussi dans chacune des unités de base administratives en France, qui sont les collectivités locales, communes et intercommunales.
D'accord. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un meilleur niveau d'action qu'un autre pour gérer la question de l'eau ?
Ça dépend ce qu'on gère dans l'eau. Le problème de l'eau, c'est que c'est à la fois quelque chose qui arrive à notre robinet 24 heures sur 24, qui va exiger un certain nombre d'infrastructures techniques et des investissements et des équipements de proximité. Et puis c'est en même temps, quand vous prenez la Loire, elle prend sa source au mont Gerbier-de-Jean, elle se jette dans l'océan Atlantique au niveau de Nantes-Saint-Nazaire. Entre-temps, elle a parcouru 1000 kilomètres. Donc elle a traversé un certain nombre de communes, de départements, de régions. On ne peut pas imaginer la gérer au niveau de chacune de nos communes. Et à l'inverse, pourrait-on gérer le service d'approvisionnement en eau, le service d'assainissement à l'échelle du grand bassin de la Loire plutôt qu'à l'échelle de la commune? Voilà. Donc l'une des préoccupations dans l'organisation de la gestion de l'eau, c'est évidemment de mettre les compétences au bon niveau territorial pour que les choses soient efficaces et puissent se faire aussi de façon assez transparente pour les citoyens.
Vous venez de parler du coup de niveaux qui pourraient parfois être contradictoires, tout comme certaines politiques publiques, par exemple la politique d'urbanisme, pourrait avoir des intérêts contradictoires avec la politique de l'eau. Comment on fait pour concilier ces différentes politiques publiques ?
Alors ça, c'est une vraie préoccupation. La politique agricole, c'est évidemment l'exemple le plus connu, puisque dans un bassin comme Loire-Bretagne, le poids des pollutions d'origine agricole est vraiment très prégnant. L'exemple de l'urbanisme, imaginons construction d'une zone d'activité sur une zone humide, il y a une petite contradiction. Alors, on a des outils, hein, et un outil comme le SDAGE par exemple, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un outil de planification de la gestion de l'eau et c'est un outil qui prescrit la façon dont on va pouvoir par exemple préserver, restaurer des cours d'eau, préserver, restaurer des zones humides. Et ce SDAGE, il s'impose aux décisions administratives qui ont un impact sur l'eau. Et il s'impose notamment au schéma d'urbanisme, au SCOT, au PLU, qui doivent être compatibles avec ce SDAGE.
Alors le SCOT et le PLU, ce sont justement des documents d'urbanisme.
Voilà. Donc là, on a un outil qui permet d'organiser, au moins sur ce plan-là, une compatibilité des politiques publiques.
Alors comment ça se passe, cette concertation, cette gouvernance, justement, pour l'élaboration du SDAGE ?
L'élaboration du SDAGE, il faut savoir qu'elle se fait au sein des comités de bassin. fut une assemblée assez large, hein, 190 membres. Donc on va avoir dans ce comité de bassin une présence de l'ensemble des familles d'acteurs de l'eau, et c'est ce comité de bassin qui va élaborer le projet. Sur le projet, il va consulter. Et là, actuellement, le projet du futur SDAJ est mis à la consultation de toute association, tout groupement industriel, groupement d'agriculteurs, peut actuellement émettre un avis, proposer des amendements, indiquer ses réserves ou renforcer son accord sur telle ou telle proposition.
Alors pour une gouvernance de l'eau à un niveau plus local, en dessous du SDAJ, il y a une déclinaison locale, Madame Opériol, c'est le SAJ.
Oui, alors le SAJ, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Contrairement au SDAJ, il est d'initiative locale. En fait, à l'échelle d'un sous-bassin, autour d'une ressource en eau, quand on a des problèmes de conflit d'usage, eh bien le mieux c'est encore de se mettre ensemble autour d'une table de discussion. Et le SAJ, qui est élaboré par une commission locale de l'eau, c'est cet outil pour arriver à définir ensemble des objectifs de gestion de l'eau et puis des méthodes, des principes et des plans d'action. Alors le bassin Loire-Bretagne est couvert à 84% par des démarches de SAJ. Au total, ce sont 56 commissions locales de l'eau qui déclinent les objectifs du SDAJ, voient comment les mettre en œuvre, pour restaurer la qualité de l'eau, assurer un partage équitable de la ressource.
Cette grande consultation sur l'eau qui a lieu actuellement, elle concerne donc tous les citoyens, mais aussi toutes ces catégories d'acteurs. Donc finalement, c'est un outil pour la bonne gouvernance de l'eau. C'est une façon d'informer à la fois les personnes, de recueillir leurs avis et donc finalement de mettre en place une politique plus concertée.
C'est effectivement tout à fait ce que vous venez de dire. C'est mettre un document, d'abord le mettre à disposition, à l'état de projet, avant que la décision soit prise. Et puis, c'est donner la possibilité à tout un chacun de s'en emparer et de peser sur ce que sera la décision finale.
Est-ce que les citoyens ont aussi un rôle actif en matière de veille et de prévention des pollutions et des abus qui pourraient constater localement concernant les questions de l'eau ?
Les citoyens sont assez sensibles à ces questions-là et sont en veille assez spontanément. Alors, ils sont en veille sur les comportements des autres. Bon, si l'on constate une pollution, si l'on constate des dégâts faits sur un cours d'eau, les services de police de l'eau, des directions départementales des territoires ou de l'ONEMA sont là et le citoyen peut tout à fait s'orienter vers eux. Souvent, les fédérations de pêche font le lien aussi. Mais vous parlez de veille, et moi j'attire l'attention sur le fait que nous devons tous être en veille aussi sur nos propres comportements.
Alors justement, quels gestes quotidiens les citoyens peuvent mettre en place pour préserver l'eau ?
On a tous une attention à porter à la maîtrise de nos consommations d'eau. L'attitude d'économie raisonnable et de règles, ça c'est la première chose. Mais il y a un autre aspect auquel on pense moins souvent, c'est que nous sommes tous pollueurs. Nous utilisons tous un certain nombre de produits qui pourraient ne pas être nécessaires. Dans nos jardins, on peut tout à fait travailler sans pesticides. Lorsque l'on bricole, on n'envoie pas ses solvants dans les réseaux d'eau usée. On évite de mettre ses huiles de vidange dans les caniveaux, etc. Ça paraît trivial, mais la pollution avec un grand P, c'est la somme de beaucoup de petites pollutions. Et quand on a de l'inquiétude vis-à-vis de substances médicamenteuses, de pollution dite émergente avec les produits toxiques, les substances dangereuses, etc., regardons un petit peu dans nos placards.
C'est vrai que l'eau, c'est une affaire de tous. Finalement, tout ce qui sort de chez nous, tout ce qu'on rejette, finit dans les rivières et finit souvent aussi par être impactant sur la santé de l'homme et de l'environnement.
Oui, tout à fait. C'est bien pour ça qu'on est tous concernés par cette question de l'eau, non seulement parce qu'on en a tous besoin, mais qu'on a aussi tous, qu'on le veuille ou non, hein, un impact petit ou grand sur nos ressources en eau.
Merci Madame Opériol.
Je vous en prie.
Tel un cirque à être Jean Leblanc, je voudrais survoler la Loire. J'en Voyez faisant le serpent pour m'éblouir de ces eaux noires qui passent de poule apaisant en rapide, jamais méchant. À l'admirer, on peine à croire qu'elle a ce fichu caractère. Effet des femmes en te colère, la Loire est dure, mais c'est la Loire. Effet des femmes en te colère, la Loire est dure, mais c'est la Loire. Villadieu, rien n'est aisé, même au plus grand fleuve de France. Et des riverains insensés lui infligent bien des souffrances. Ici, mon pesant la dépouille, là, le puits envolait la souille. Pourtant, quand soit loué peiné, le désastre fut évité. Quand on débarquait les pillards au pied du cerf de la phare. Quand on débarquait les pillards au pied du cerf de la phare. La Loire est vivante et fragile, laisse-la tranquille. Une bande d'élus séniles avait cependant claironné. Ce ne sont pas les imbéciles qui vont pouvoir nous arrêter, mais les imbéciles contagieux, toujours de plus en plus nombreux, de tous les bords, de tous les âges, 20 ans après sont toujours là. Tandis que la vieille est pas là, à plier armes et barrages. Tandis que le vieil est pas là, à plier armes et barrages. La loutre peut toujours pêcher dans l'eau claire des gorges sauvages. Le cinq à l'abri des rochers susurre encore son ramage. On peut y voir bergeronnette, grand duc et chevalier guignette. Le faucon paie le vin mythique, le vrai est hélas prolifique. Et dans le ciel, l'orbe idéale de l'éclatant Milan Royal. Et dans le ciel, l'orbe idéale de l'éclatant Milan Royal. La Loire est vivante et fragile, laisse-la tranquille. Il faut une trop attentive pour sauvegarder les cours d'eau. La route est tout au long des rives, alerte et l'ignorant bateau. Révérence reconnaissante pour SOS Loire vivante. Fais barrage aux pollueurs et qu'une fois pour toutes meurt. Tant pis pour la diversité, l'espèce du vent mal enragé. Tant pis pour la diversité, l'espèce du vent mal enragé. La Loire est vivante et fragile, laisse-la tranquille. La Loire est vivante et fragile, laisse-la tranquille.
Roberto Eplet, vous êtes président de l'association SOS Loire Vivante ERN France, une association mais aussi un réseau d'acteurs qui œuvrent pour la protection et la mise en valeur de la Loire et de son bassin versant. À la fin des années 80, la Loire a connu un combat historique qui a permis de faire avancer la gouvernance de l'eau. Depuis lors, pour vous, quelles sont les grandes avancées en matière de participation de la société civile à la politique de l'eau ?
Oui, alors j'en prends comme référence ce qu'il y avait... À la fin des années 80, on peut dire qu'il y a eu des avancées assez importantes en ce qui concerne notamment la Loire, qui est en partie encore un peu un pilote, car voilà, il y a un grand combat donc de la société civile qui avait fait pression sur les gestionnaires à l'époque. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand plan Loire Grandeur Nature et qui a permis, d'une certaine façon, à améliorer la gouvernance autour de la gestion du bassin. Le plan Loire lui-même, il donnait une place aux associations, une voix, jusqu'à peu près à 2002-2003. Après, on est revenu sur une sorte d'exclusion un peu des associations dans le cadre de la décentralisation. Ce qui a fait que nos partenaires sont de plus en plus devenus des régions, et dans les régions, il n'y a pas encore cette culture de faire participer la société civile. C'est-à-dire une régression qui a lieu due à la décentralisation. Et puis, on est dans un processus de réapprendre à travailler avec les élus régionales qui, jusqu'à là, n'avaient pas du tout l'habitude.
D'accord. Donc, c'est vraiment une nouvelle culture politique. Comment les associations se sont organisées pour faire entendre leur voix, justement, sur la gestion des fleuves ?
Oui, alors, c'était très important que le monde associatif s'adapter à cette façon de penser, non pas dans les limites administratives, départements, régions, etc., mais de s'adapter à la notion du bassin. À l'exemple de la Loire, elle réunit un cinquième du territoire de la France. Et le monde associatif, jusqu'à là, il était structuré par départements. Donc cette coopération transfrontalière si on peut parler de frontières, était très important. Et deuxièmement, les associations jusqu'à là, ils traitaient tous les sujets de l'environnement. Et ce qui avait besoin, c'était qu'il y avait une certaine spécialisation. Donc la mise en réseau des acteurs, tous ceux qui étaient intéressés à la gestion de l'eau, c'était le job qu'on faisait à Loire-Vivante et on a pas mal réussi pour répondre à ces nécessités que je viens de citer.
Alors quand on parle de la gouvernance de l'eau, peut-on dire que sur le bassin de la Loire, on est en avance sur le reste de la France et même de l'Europe ?
Moi je dirais qu'on était en avance pour parler de la France. Parce qu'il y a une forme de régression qui est due à la réorganisation de l'État français. Par contre, si on compare avec l'international, là nous avons un grand atout qui n'est pas seulement lié à la présence des associations dans la gouvernance, mais aussi par le fait que la France était le premier pays qui avait créé des institutions adaptées au bassin, notamment les agences de l'eau que chaque grand bassin possède. Et ça, c'est une forme évidemment de gestion qui est absolument indispensable. Et nous avons naturellement une avance par rapport aux autres pays en Europe, notamment les États fédéraux, comme l'Allemagne, par exemple, ou encore l'Italie ou l'Autriche, où tout est géré par région et les bassins sont morcelés.
Donc ça permet une gestion vraiment cohérente, intégrée de la Loire et de ses affluents.
Tout à fait, c'est même la condition absolue de faire.
Alors aujourd'hui, comment le réseau Loire Vivante continue de penser l'avenir de la Loire et de son bassin et quelles actions sont mises en place par ce réseau ?
Au niveau du bassin entier, il faut revenir un petit peu sur ce qui sont les régions elles-mêmes. Alors il y a une sorte de mélange de travail à faire qui est entre le bassin, la vision globale, et puis la décliner sur les objectifs régionaux, parce que les partenaires régionaux qui ont aujourd'hui le pouvoir, eux, ils n'ont jamais la vision. Et nous, on peut l'apporter. Donc il faut se réadapter, et notre processus de mise en place, ce qu'on appelle les assises, une sorte de forum permanent des associations, sur l'ensemble du bassin est un outil pour répondre à ses besoins. Mais aussi, il va falloir en venir à nouveau, faire beaucoup, beaucoup de formation auprès des acteurs associatifs qui, en la tendance, se renouvellent heureusement. Donc, il n'y a pas toujours une continuité des personnes. Donc, il faut veiller à ce que les gens qui arrivent à nouveau dans les associations peuvent se mettre au même niveau de connaissance que ceux qui sont peut-être moins actifs après quelques années. Voilà un petit souci qu'on a parce qu'on travaille dans la durée et c'est normal que nous devons trouver des solutions à ce problème, tout comme les autres structures d'ailleurs aussi.
Alors, quels sont selon vous les outils actuels les plus efficaces pour permettre la rencontre des acteurs de l'eau et la concertation nécessaire à la bonne préservation de l'eau en général ?
Les acteurs de l'eau, d'une certaine façon, se sont multipliés. Si avant la décentralisation, on avait plutôt des partenaires au niveau national, aujourd'hui, c'est une fois, trois ou quatre fois plus. Donc, il faut que nous, comme je l'ai dit, on se réorganise. Et on se réorganise non pas seulement notre travail à nous, mais aussi il faut créer des nouvelles instances, si j'ose dire comme ça, qui sont interface avec les régions. Alors, on peut s'imaginer des commissions de travail sur des thèmes précis, régionaux, et qui sont eux-mêmes ensuite relayés par une sorte de comité national afin de pouvoir garder la cohérence du travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est le souci depuis la régionalisation pour faire des nouveaux outils qui permettent à maintenir la cohérence vu l'absence relative de l'État.
La régionalisation, ça semble avoir engendré une réforme très compliquée pour vous, pour les acteurs associatifs de l'eau.
Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est en soi c'est positif. Mais nous avons effectivement un processus qui prend du temps et un réapprentissage aussi des cadres politiques et des élus qui n'avaient pas du tout l'habitude jusqu'à maintenant. Voilà, ils étaient pour ces problématiques-là, ils n'étaient pas sollicités, c'était l'État, c'était Paris, j'ose dire, et les services de l'État. Donc, voilà, il faut réorganiser, ça se fait, il faut donner les moyens, il faut aussi transférer de la connaissance. Et ça, c'est pas d'un jour à l'autre.
On vient de parler un peu de la réforme des collectivités, mais il y a une instance de l'eau qui est mise en place depuis relativement longtemps maintenant, qui sont les comités de bassin au sein des agences de l'eau. Et c'est l'organe le plus élevé de la gestion de l'eau sur le bassin de la Loire. Est-ce que vous considérez qu'il fonctionne comme un parlement de l'eau ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que c'est démocratique ?
Oui, je pense qu'on peut dire que c'est le parlement d'eau. C'est le concept. Le comité de bassin qui accompagne la politique de l'agence de l'eau. Maintenant, il y a beaucoup de membres. Et il faut se poser la question aujourd'hui si la structuration au sein de ce comité, ça veut dire le poids qu'ont les différents membres de ce Parlement, s'il est encore d'actualité. Je m'explique. Par exemple, il y a une catégorie qui sont les usagers, dans laquelle il y a un nombre limité de personnes qui peuvent être présentes pour représenter les usagers des différents secteurs du bassin. Et là-dedans, il y a des associations de protection de l'environnement. Comme si nous étions des usagers. Nous sommes donc ensemble avec des pêcheurs, avec EDF, nous sommes avec d'autres agriculteurs qui consomment de l'eau. Ils représentent, si vous voulez, des métiers qui ont besoin de la rivière. Alors là-dedans, les associations de protection de l'environnement ne sont pas trop à l'aise parce que nous sommes liés au fleuve d'une autre façon et nous avons d'autres soucis et d'autres exigences. Alors là, la société civile que nous représentons aujourd'hui, elle n'a pas assez de poids. Il faut revoir ça.
C'est une question de représentativité, de nombre de sièges dans les processus de décision?
Oui, j'ose même dire, pour un parallèle avec le vrai Parlement français, faire en sorte à ce qu'on a une sorte de proportionnel dedans. Aujourd'hui, c'est disproportionné. C'est-à-dire, nous sommes, à mon avis, massivement sous-représentés et on ne peut pas être mis dans la même catégorie comme les usagers. Parce que nous, on n'a aucun intérêt direct, ni financier, ni autre. Nous défendons l'écosystème dans l'intérêt général et les différentes représentants qui sont aussi aujourd'hui dans ce groupe des usagers, eux, ils ont d'autres intérêts que général. Parfois, c'est général, mais aussi économique.
Plus particulier, oui. D'accord, mais donc le comité de bassin, c'est un endroit où c'est possible de confronter des idées, finalement, c'est possible de se concerter sans forcément tomber d'accord. Et pour vous, quels sont les outils actuels les plus efficaces pour gérer les conflits potentiels liés à l'eau?
Il n'y a pas vraiment aujourd'hui de lieu où justement on parle de ces grands thèmes, agriculture, qui est consommation d'eau, essentiellement, hein, ou hydroélectricité, qui est un acteur important, source des problèmes pour les écosystèmes.
Pour mieux préserver l'eau pour les générations futures, Roberto Eplet, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action concrète, assez radicale?
Je pense qu'il y a un immense projet à mener, c'est-à-dire impliquer beaucoup plus fortement nos citoyens. Les gens, ils pensent en règle générale que l'eau, voilà, vient du robinet. Ils oublient que finalement, ça vient quelque part d'un lac ou d'une rivière ou d'une nappe souterraine, et qu'il faut la pomper, et qu'elle impacte évidemment les écosystèmes, la surconsommation notamment. Donc, il faut qu'ils sachent que c'est un cycle d'eau. B, il ne faut pas laisser l'eau aujourd'hui, c'est une tendance, privatisée, hein, même si on parle que de la gestion, mais en fait, ça reste un bien public. Pour assurer ça, il faudrait créer une sorte de charte de tous les acteurs de la société. Bon, peut-être c'est le fameux contrat mondial pour l'eau, où on déclare que l'eau est un bien commun pour chacun de nous. Un autre aspect qui est important, beaucoup de citoyens qui sont prêts aujourd'hui à s'engager pour l'eau, ils n'ont pas les connaissances de la vraie consommation de l'eau qu'ils ont eux, notamment de ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Donc l'eau qu'ils ne consomment pas directement, lui, sous forme de l'eau, mais sous forme de produits, que ce soit alimentation ou des produits technologiques, voitures, etc., etc. C'est-à-dire, on consomme 10 fois plus de l'eau virtuelle que de l'eau vraiment, quand on regarde sa propre facture de l'eau. Et évidemment, là, éviter à puiser dans nos réserves d'eau fossile souterraine, dans les grandes nappes profondes. Il faut les exploiter juste au minimum, qui permet à maintenir année par année à les renouveler. Ça, pour moi, c'est absolument crucial et essentiel. Mettons les outils en place pour que ça soit respecté, pour maintenir assez d'eau pour nos futures générations.
Très bien, Roberto Eplet, merci beaucoup. Et bonne continuation dans vos activités associatives pour protéger les rivières.
Merci Claire.
Parce que votre avis compte, participez à une consultation publique sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques en répondant au questionnaire à votre disposition sur le site internet prenonssoindelleau.fr. Cette émission vous a été proposée par SOS Loire Vivante ERN France avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.